pour la dernière intervention, elle concernera les jeux numériques dans une fin de simulation, pardon. Et j'appelle, j'espère qu'ils sont là, Isabelle Mourillot. Ah, d'accord. Et Reynald Camorillo. Bah, vous êtes là, merci beaucoup. Donc, voilà, chercheur en santé, en neuropsychologie plus particulièrement, et co-directeur du département de recherche, MJ Innov. Mais je vais vous laisser.
D'accord. Moi, je représente Apicil. Apicil, c'est un GPS, qu'on appelle un groupement de protection sociale, qui est dans la région lyonnaise. Notre objet en tant que groupe de protection sociale, c'est de s'occuper de tout le monde, tout le temps. Enfin, en tout cas. Alors, on va s'en occuper à travers des garanties, à travers des associations qui sont proches du malade et du mécénat. Dans le cadre de cette partie mécénat, notre but étant de mieux connaître finalement ce type de maladie et d'arriver à les suivre. Nous dépensons 16 millions par an. 16 millions par an. Ouais, je vois qu'on me souffle. Ouais. On dépense 16 millions par an uniquement pour cette activité sociale. C'est relativement important, sachant que dans ces 16 millions, on en a 6 qui sont vers l'individu et 10 qui sont vers les structures. Dans le cadre de ces interventions, nous intéressons effectivement à la partie au niveau du matériel qui va traiter tout ce qui est lutte contre la partie cognitive. Et donc nous avons investi, enfin en tout cas aidé, une structure qui développe un outil permettant de faire cette lutte contre la partie. Voilà.
Merci beaucoup pour cette introduction. On va à présent écouter le chercheur en santé. Ça fait bien, hein, chercheur en santé, Reynald Camorillo.
D'accord, merci. Merci pour l'invitation. Merci aux personnes encore présentes. En fait, je vais vous parler effectivement de tous ces dispositifs numériques qui arrivent aujourd'hui en fait dans les établissements. Alors, vous en connaissez, hein, les jeux sur les tablettes, vous avez des robots, vous avez des casques de réalité virtuelle, vous avez des bornes de musique qui permettent de faire du karaoké ou proposer des jeux. Enfin, tout un tas de dispositifs aujourd'hui qui sont proposés également comme des interventions dites non médicamenteuses. Alors, pour être rapide, puisqu'il en a déjà été question en fait aujourd'hui, interventions non médicamenteuses, ce sont des interventions non pharmacologiques qui sont souvent en complément en fait des interventions médicamenteuses. Vous en connaissez certaines, hein, il y a la musicothérapie, il y a l'activité physique adaptée, il y a la zoothérapie, enfin tout un tas d'interventions non médicamenteuses aujourd'hui qui ont montré en fait leur intérêt. Mais pour éviter en fait certaines dérives, aujourd'hui, on demande également à ces interventions non médicamenteuses de prouver leur efficacité, ce qui est sur un plan en fait méthodologique, je passe scientifique, extrêmement complexe. Globalement, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à trouver la bonne méthodologie en fait pour prouver véritablement l'efficacité de ces interventions non médicamenteuses, et notamment lorsqu'elles utilisent des dispositifs numériques. Moi, aujourd'hui, à titre d'exemple, et puis on essaiera de généraliser sur certains facteurs qui font que ces outils sont intéressants ou pas, en fait, dans les établissements, je vais prendre l'exemple de la Tower Tafel, que vous avez peut-être vu tout à l'heure dans les couloirs, que je faisais tester. C'est quoi la Tower Tafel? Alors déjà, Tower Tafel, c'est un mot néerlandais, ça veut dire table magique. En fait, c'est un système de projection. Donc un système de projection, ça veut dire que ça projette des jeux interactifs sur un support adéquat, qui peut être une table, un sol, sur la personne. Si vous voulez mettre un bac avec un peu d'eau pour travailler un peu la sensorialité, c'est toujours possible. Si vous voulez mettre des plaids blancs, c'est également possible. À partir du moment où il y a un support de projection, en fait, ça fonctionne. Et puis, comme c'est un système, il faut imaginer que vous avez plein de fils invisibles qui sortent un peu de cette boîte. Et quand vous passez comme ça votre main, vous venez casser les fils, et c'est ça qui fait réagir les jeux. Donc, je parle de la main, mais vous pouvez casser ces fils avec la tête, avec les pieds, avec des objets, avec ce que vous souhaitez, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il peut être intéressant de jouer au sol, mais vous allez jouer au sol peut-être avec, vous savez, des frites qu'on trouve dans les piscines. Vous allez jouer peut-être à un ping-pong, si vous le souhaitez, avec des vraies raquettes, etc. Donc, l'idée, c'est, voilà, vous avez un dispositif qui a un certain intérêt. Plutôt que d'en parler, je vais essayer de vous montrer un film. Mais on va aussi essayer de généraliser sur les facteurs qui font que ces dispositifs vont être ou pas intéressants, en fait. Voilà, ça donne une idée, en fait, de ce qu'on peut faire avec l'outil. Et donc, nous, on a fait un certain nombre d'études pour essayer de montrer un peu quelle était l'efficacité de cet outil. Alors, notamment, je vais aller très vite, hein, mais vous avez un effet sur ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement, on va dire, c'est l'opposé de l'apathie. C'est le fait que les personnes soient impliquées, en fait, dans ce qui leur est proposé. Et alors, c'est dommage, le docteur Joatel est parti, mais on voit qu'elle en parlait. Dès lors que les personnes sont engagées, vous avez aussi une autre présentation qui se fait des personnes, en fait. On a combien de fois on a des proches, des professionnels qui se disent « Ah ben, je ne savais pas, en fait, que monsieur ou madame, machin, elle pouvait encore être en capacité de faire ça. » On parlait de la capacité tout à l'heure. Et donc, c'est tout à fait intéressant de se dire « Ah ben, tiens, en fait, je m'aperçois que monsieur ou madame, machin, elle lit encore. » On avait oublié, en fait, que la capacité de lecture était toujours là. Et donc, le jeu aussi, parce qu'il est simple à mettre en place, permet, en fait, de se rendre compte que finalement, eh bien, la personne, elle a encore des capacités et que c'est intéressant aussi de les, on va dire, les exploiter, en tout cas, lui permettre de les mettre en œuvre. On a vu également, en fait, que ce genre de jeu permettait d'améliorer la communication avec les aidants, et pas seulement une communication « ça va », mais une communication autour de conversations impliquées. Vous avez vu, vous avez des images, vous avez des photos, vous pouvez aussi mettre des photos personnalisées, donc ça va permettre d'enrichir, en fait, les conversations. Et ça, on peut le mettre tout à fait en avant. Et ça permet également, puisque parfois, les petits-enfants, notamment, ou les enfants ne savent plus quoi dire, en fait, quoi faire avec leurs proches, qui ne le reconnaissent plus, qui ne savent plus les nommer, par exemple, eh bien, il y a malgré tout une communication via cette médiation qui va pouvoir se faire. Et on a de très beaux retours, en fait, d'enfants qui viennent, qui ne voulaient plus venir, en fait, dans l'établissement, et qui viennent dans l'établissement, en fait, toujours avoir ce lien avec leurs grands-parents pour pouvoir jouer autour de ces jeux et qui permettent justement d'avoir toujours des interactions avec leurs proches. Évidemment, ça a été dit tout à l'heure, il y a la question du bien-être et on a pu montrer également que ce style de jeu, lorsqu'on le permettait, en fait, augmentait en fait le bien-être et notamment parce que, comme vous l'avez vu sur les images, ce sont des activités de groupe. Et les activités de groupe, il a été montré que ça participe au bien-être des personnes qui sont parfois seules, même en institution, qui sont d'un côté, et bien vous pouvoir faire des activités avec d'autres. Et là aussi, c'est une grande surprise parfois chez les proches de voir que finalement, leur proche lui-même peut encore faire des activités avec d'autres et des activités qui ont du sens aussi, sur lesquelles on va se retrouver. Et ça permet de diminuer, on va dire, l'agitation. On parlait tout à l'heure des... parfois de déambulation, et bien simplement parfois d'inviter en fait la personne qui déambule autour de la table, si c'est un jeu à table, et bien ça permet à un moment donné de la faire revenir avec les autres et de faire une activité là aussi qui a du sens. Exactement, sortir de l'isolement. Ouais. La peur de chuter. On sait très bien qu'une fois qu'une personne a chuté, parfois elle peine à reprendre la marche parce qu'elle a elle a des craintes de se dire « eh ben, je vais rechuter ». Eh bien, de pouvoir proposer des activités ludiques, là aussi, une étude a été réalisée avec des ergothérapeutes, eh bien, ça permet en fait aux personnes de reprendre confiance en elles pour de nouveau marcher, déambuler, on va dire, dans l'établissement. Exactement.
On posera des questions après. Vous ouais.
Voilà. Alors, je vous l'ai dit, je vais très vite. Là, c'est un outil en particulier. Moi, ce que je souhaitais également vous rendre compte, c'est il y a l'outil, mais il ne faut pas se centrer sur l'outil. Ça a été dit également durant cette journée, en fait. Il y a différents facteurs qui vont faire que cet outil, il va fonctionner ou pas. Ce n'est pas l'outil en lui-même, on le met, on l'allume, qui va fonctionner. Il y a tout le travail, effectivement, des proches, des professionnels, mais aussi, ça a été dit là encore à l'instant, c'est la question, ça va engendrer des questions dans le milieu, en fait, dans lequel il s'insère cet objet. Un professionnel veut mettre en place une activité, eh bien c'est toute l'institution en fait, qui se pose la question de quel sens on met dans l'activité, comment on l'organise, qui le fait. Il y a des questions économiques aussi qui se jouent, comment on finance ce genre d'activité, etc. Donc c'est toutes les questions en fait, du milieu social dans lequel s'insère l'objet qu'il va falloir prendre en compte. C'est un objet technique. Celui-ci, par exemple, il s'allume, il s'éteint. Eh bien, il faut prendre en compte aussi quels sont, en fait, le fonctionnement même de l'outil et quel milieu technique dans lequel je vais l'insérer. Pour le dire comme ça, prosaïquement, c'est un outil de projection. Si vous êtes dans une architecture où il y a beaucoup de lumière, ben, en fait, vous gênerez tout simplement la projection. Donc là aussi, c'est des questions toutes bêtes, mais qu'il faut savoir se poser. Parce que si vous ne vous posez pas la question de savoir de quel milieu technique il a besoin cet objet, c'est vrai aussi des casques de réalité virtuelle, s'il y a trop de lumière, ça ne va pas fonctionner en fait. Donc vous aurez un objet qui restera dans les placards parce que finalement, on n'a pas pensé forcément à l'endroit dans lequel on allait le mettre. Il y a d'autres facteurs qui jouent, hein, quelle satisfaction avec l'objet, quelle satisfaction, pardon, on veut que la personne en retire, que les soignants en retirent, enfin, c'est tout ça qu'il faut se poser. Et puis, il y a des questions aussi de quelle appropriation possible aussi par les professionnels et par les personnes. C'est-à-dire que si vous proposez des choses trop fermées dans les jeux, en fait, vous fermez l'appropriation, vous fermez la créativité des gens, en fait. Donc, tout simplement, nous, on voit que les professionnels, à partir du moment où ils peuvent s'approprier les objets, ils peuvent véritablement transmettre quelque chose aux personnes. Et si les jeux sont également ouverts pour les personnes, même qui ont la maladie, pardon, Alzheimer ou maladie apparentée, c'est très intéressant. Nous, on a vu des messieurs, par exemple, vous avez un jeu avec des feuilles, je ne sais pas si vous avez vu sur les feuilles, où il s'agit simplement de frotter les feuilles. On a un monsieur qui s'est levé, qui allait prendre un livre et qui a commencé, en fait, à pousser les feuilles. Et c'était intéressant, en fait. C'était sa propre proposition qui était aussi acceptée par le groupe. Donc, c'est tout ça, tous ces facteurs qu'il faut prendre en compte pour qu'un dispositif, en fait, fonctionne. C'était un peu, j'ai envie de dire, l'idée que j'avais envie de mettre là aujourd'hui avec vous en œuvre, c'est que, très bien, les dispositifs, ils sont extrêmement intéressants, mais ce n'est pas le dispositif lui-même tout seul qui va faire que ça fonctionne, en fait. C'est toute une pensée qu'il faut avoir autour de cet objet pour que, en fait, l'usage de l'outil ait un intérêt. Voilà, je m'arrête là, on m'avait demandé d'être rapide.
Bien sûr, c'est passionnant, merci beaucoup. Et même s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est enregistré, donc ça pourra être accessible à un nombre plus grand. J'ai juste une question. Ils ne sont pas familiers, cette génération, de ces outils un peu. Est-ce que, et puis le jeu n'était pas très présent pour eux. Est-ce que c'est un obstacle quand, ou pas du tout ou en tout cas, on se dit au début de la maladie, quand ils ont encore peut-être toute la tête, ça les gêne qu'on les fasse jouer à ça. Est-ce qu'il y a des barrières un petit peu à la fois psychologiques et...
Alors en fait, absolument pas. On se rend compte, non, absolument pas. Et en plus...
Ils ne sont pas infantilisés.
Absolument pas. Les jeux ne sont pas faits pour être infantilisés. Et alors c'est du jeu, tout le monde... Tout le monde joue, hein, de zéro à plus tard. Et en plus, comme je vous disais, c'est la question de l'appropriation en fait, qui va être intéressante. C'est-à-dire, c'est pas le jeu, le scénario du jeu en lui-même, c'est comment le professionnel va aborder le jeu avec la personne et comment il va lui proposer en fait, d'entrer dans cette... Ça va servir de médiation, en quelque sorte, avec la personne.
Mais est-ce que, ce qui est très marquant, c'est que ce jeu, on a envie, nous aussi, d'y jouer. Et est-ce que c'est pas ça aussi la clé de la réussite, c'est-à-dire que il y a un vrai partage. Vous évoquiez un travail. On a envie de dire, moi je vois pas de travail dans ce que vous avez présenté. On a juste envie d'être à côté et de jouer nous aussi au ballon à vague. Est-ce que c'est pas là la clé de finalement un peu à l'image de ce qui était présenté avant où les artistes et soignants se retrouvaient en famille.
Est-ce oui. que vous êtes ouais, mais je parle aussi de travail parce que certes il y a le travail, on va dire. La profession, mais c'est un vrai travail aussi pour les personnes, comme je disais, même pour les professionnels. Faut pas, même les artistes, en fait, il y a un travail derrière. Comme disait le docteur Joitel, pour pouvoir en fait prendre en compte la personne qu'on a en face, c'est tout un travail presque mental, psychique, en fait, pour s'adapter en fait à la personne. Donc, faut pas le mettre de côté parce que c'est extrêmement intéressant de se dire en fait quand on est avec ces personnes, on est mis au travail, pour le dire comme ça.
insister sur ce point. D'accord. Non, non, mais j'entends bien. Bon, peut-être une ou deux questions, même si le temps est un petit peu, ou un témoignage en tout cas. Oui, ben, je vous en prie.
Est-ce que si je fréquente des Alzheimer, je deviens Alzheimer?
C'est une question, on a l'impression que vous pensez... C'est votre crainte? Sérieux? Sérieusement? Vous avez... non, mais... C'est votre crainte?
On fréquente des gens, on devient des gens. On fréquente des gens cons, on devient cons.
Non, je peux vous rassurer. Contagieux. Non, c'est pas contagieux du tout.
Mais, voilà, c'est pas...
L'idée, par contre, on parle de milieu, on parlait du milieu, ça a été dit aussi tout à l'heure avec le docteur Joatet, c'est le milieu qui va permettre en fait qu'il soit riche et qui va permettre d'ouvrir en fait à connaître en fait des expériences de vie nouvelles ou qui vont permettre des expériences de vie qui vont nous amener à vivre d'autres choses. Donc c'est plutôt ça.
Peut-être l'impression c'est peut-être déstabilisant parce qu'on est confronté à un autre rythme, à une autre réalité, etc. Et c'est vrai que probablement, en tout cas, ce n'est pas neutre. C'est pas contagieux, mais c'est pas neutre. Ça vous va comme réponse? Bon, bah, écoutez, je crois qu'il est un peu tard, mais on l'a énormément apprécié. Elodie va nous confirmer, tout ça est enregistré. Donc on aura le plaisir d'avoir accès à ça et donc on est ravis. Merci infiniment.
Merci.
J'avais presque envie de l'acquérir. Il est disponible déjà.
Oui, c'est disponible.
Ah oui, d'accord. Oui. Ça coûte cher, peut-être.
C'est un certain coût.
Ça a un coût du développement. Mais écoutez, merci encore. Cette journée s'achève. On a vécu une après-midi très, très riche. On remercie la Fondation La Recherche Alzheimer pour ce travail de toute une année. Et Elodie, on confirme rendez-vous l'année prochaine aussi à Nice. Voilà, le rendez-vous est pris. Et encore avec un nouveau programme. Merci infiniment à tous. Au revoir.